les premières discussions. Donc on a convié Dominique Mémy, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire CRESPA, pour une intervention intitulée « Leurs désirs font des ordres », pleine de suspense. On l'a conviée ici au titre de spécialiste des questions du corps et de la domination rapprochée pour ses derniers travaux. Également pour sa connaissance, d'une certaine mesure, ou du moins son maniement partiel de théories psychologiques ou psychanalytiques qu'elle connaît un peu et que Olivier Schwartz manipule à l'occasion dans cet ouvrage. C'est pas sûr d'ailleurs qu'elle va intervenir sur cette question-là, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus avant dans le débat. À la suite de quoi Nicolas Hatzfeld interviendra, donc historien du travail, professeur d'histoire à l'université d'Evry. Spécialisé sur le travail ouvrier industriel, sur les travailleurs plus exactement, également sur les maladies professionnelles, qui s'est fait à la fois ethnographe et historien dans ses diverses enquêtes, en partie contemporaine à celle menée par Olivier Schwartz, qui interviendra d'une part sur le dialogue possible entre cette ethnographie et les recherches menées en historiographie du travail, et d'autre part sur son usage plus personnel, ou du moins le dialogue plus personnel qu'il a engagé avec ce type de recherche. Donc Dominique, peut-être.
Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité à revisiter le livre d'Olivier Schwartz. Donc j'ai intitulé cet exposé, je crois que c'est une demi-heure, hein, c'est ça, je voulais savoir. Oui, bon. Donc j'ai intitulé cet exposé leurs désirs font des ordres, alors que effectivement la commande qui m'avait été faite était de réfléchir à l'ouvrage d'Olivier Schwartz à travers la notion que je suis en train de tester sur un dernier livre de domination rapprochée, c'est-à-dire en gros la domination dans la domus étant un des éléments des dominations rapprochées, c'est-à-dire des dominations qui s'exercent dans le face-à-face, sans coulisses, de manière continue et relativement pérenne. Bon, et très vite, je me suis aperçue que utiliser cette notion me conduisait à voir que, en gros, il y avait de la domination physique dans cet univers ouvrier. Il y a des coups et il y a aussi des captations par corps, puisqu'il y a un interdit de sortir. Je me suis aperçue assez vite que l'interdit de sortir est beaucoup plus précis et circonstancié que ce que je viens de dire. Mais enfin, il y avait des choses suffisamment visibles pour devenir, par exemple, la distribution très sévère des tâches entre hommes et femmes. Donc des choses suffisamment visibles pour devenir insupportablement banales pour moi. Et d'autre part, je me suis aperçue assez vite que l'ouvrage d'Olivier Schwartz n'est pas un ouvrage sur la domination masculine, c'est un ouvrage plutôt sur la domination sociale. Il fallait pas rater ça. C'est-à-dire il fallait pas rabattre la question de la domination sociale sur la domination masculine sous prétexte que c'était un la demande et d'autre part qu'on se trouvait dans un milieu où on pouvait travailler la domination masculine de manière spécifique puisque on avait un droit d'entrée sur cet univers-là. Bon. Par ailleurs, il y avait un petit mot qui est apparu page 22 dans l'ouvrage d'Olivier Schwartz qui dit que une des choses les deux suggestions au sens de domination, hein, puisque je le prononce mal, dont il voulait s'occuper dans cet ouvrage, c'était, je cite, la discipline des désirs individuels. Bon, voilà, j'en dis pas plus. Et donc, il m'a semblé que ce qui était intéressant de creuser là, c'est l'inégalité dans la suggestion des désirs individuels, dans la domination, si vous voulez, des désirs individuels. Et très vite, il m'est apparu que cette inégalité était très profonde. Alors, d'autre part, oui, alors je vous rappelle, si c'est pour mémoire, parce qu'il est 9h du matin ou à peu près, et que donc vous avez tout oublié de l'ouvrage d'Olivier Schwartz, que le grand atout de l'ouvrage pour moi, si je me mettais à travailler sur cette question-là, c'est évidemment, c'est que, alors moi j'adore les chiffres, donc il y avait une analyse substantielle puisqu'il avait interrogé 90 personnes environ, dit-il, page 40, mais surtout, Avec ces 90 personnes, il y avait eu, je cite, établissement de relations régulières et approfondies. Donc c'était une relation, un rapport quantitatif au terrain, mais qui était très qualitatif aussi. Et que d'autre part, une partie du livre, sa fin, est entièrement occupée par la plongée sur deux couples pris dans une crise de désir, avec un travail de l'auteur sur l'avant, le pendant et l'après cette crise. Bon, donc évidemment, ça ouvrait des voies pour une analyse un peu précise du rapport que je vais vous proposer ici, du rapport entre désir et domination sociale. Donc là, je vais aujourd'hui décliner une des multiples facettes possibles de ce rapport. Il y en a plein d'autres, hein, en fait. Je vais découvrir ça en travaillant. Il y en a plein d'autres possibles, mais celui-là m'a paru particulièrement riche parce qu'au fond, l'hypothèse que j'ai faite assez vite, c'est que la domination, en tout cas sur les femmes, passe en grande partie, mais je pense que c'est pas seulement sur les femmes, je pense que c'est le cas sur les enfants dans la domus, dans la domination rapprochée, je pense que c'est le cas sur d'autres types de dominés dans un univers clos. Donc la domination dans un univers clos, en tout cas sur un certain nombre de dominés, passe par une aliénation du désir, tout simplement, et aliénation au sens fort du terme, c'est-à-dire le désir devient autre et devient celui de l'autre, etc. Alors, ceci dit, en deux temps, la première chose qui m'a paru très forte, c'est le thème du désir de l'autre. L'ouvrage m'a mis la puce à l'oreille aussi parce que la fin, je vous dis, évoque une plongée sur deux couples, et notamment le couple de Jean-Claude, dont Jean-Claude et Claudine, dont Olivier Schwartz nous dit qu'il a peu rencontré, je crois que c'est le couple qui a le moins, qui était le plus égalitaire aux îlots, c'est-à-dire dans le quartier qu'il a analysé. Or, c'est dans ce couple-là, si je me souviens bien, hein, vous me corrigez parce que ça, j'ai relu tout ça au mois d'août, donc c'est dans ce couple-là que Jean-Claude fait descendre, si je me souviens bien, tout l'escalier à Claudine en la tenant par les cheveux, car comme elle est la fille d'un commerçant ruiné, non pas d'un comme lui d'un mineur, elle a la mauvaise habitude de préparer la veille le café et de ne pas être là pour le, alors c'est important, je ne sais pas si c'est les mots que vous avez employés, en tout cas pour le présenter. Or, ce que demande Jean-Claude, c'est au fond, si j'interprète, c'est une double chose. C'est d'une part cette prestation maternante qui consiste à avoir son lolo le matin présenté par quelqu'un qui a fait cet office de nourrir, mais aussi la présence physique, tout simplement, de Claudine, d'où l'idée de l'amener physiquement, par des voies physiques, jusqu'au lieu où sa présence est requise. Deuxième trace importante pour moi, c'est tout le développement qui est dans le chapitre 4, la troisième partie, sur l'ère de retrait qu'est le privé, la domus. Il dit, le titre, c'est une ère garantie par les femmes. Il y a plusieurs titres, il y en a un qui s'appelle le refuge, d'un autre qui s'appelle vivre caché, etc. Et il y a tout un passage, page 409, sur la sphère des accomplissements, où effectivement il ressort qu'il y a une demande principale masculine qui est effectivement une prestation, celle de présenter le café du matin, mais aussi une présence qui est réquisitionnée. Alors, ce n'est pas du tout simplement l'interdit de sortir dont parlait Michel Perrault pour les femmes au XIXe siècle, et qui fait que quand elles ont commencé à faire de la philanthropie, leur rapport à leurs conditions sociales a changé. Ce n'est pas un interdit de sortir ici simplement, c'est un interdit de sortir quand la présence masculine n'est pas là. C'est-à-dire, on peut sortir, sauf quand l'homme est là. Il ne faut pas perdre l'habitude d'écrire de crayon noir, je pense. C'est une très mauvaise habitude. Bon. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça ? À peine. Bon, on va essayer. Alors, c'est cette demande incontournable. Alors, c'est très important, cette histoire, que ce n'est pas simplement l'interdit de sortir, mais que c'est cet interdit de sortir quand l'homme n'est pas là, parce que ça permet de réinterpréter l'interdit masculin du travail féminin. Il y a une très petite minorité de femmes qui travaillent aux îlots, alors que toutes les jeunes filles avaient travaillé, comme les jeunes hommes d'ailleurs. Et il apparaît que quand elles sont adultes, elles ne peuvent plus travailler et elles peuvent faire cependant ce qu'elles veulent tant que les résultats sont là, à savoir un foyer dont on sent qu'il a été habité, nettoyé, etc., non délaissé pendant la journée, et qu'il est prêt et organisé pour accueillir l'homme, la présence masculine, qui doit alors évidemment s'y trouver par ce travail minimal fait dans la journée, délaissé de tout souci matériel. Alors, Olivier Schwartz l'explique, cette réquisition de présence, par un univers masculin très contraint lui-même du côté des désirs, du moins dans le travail. Une hiérarchie très forte, une autonomie très faible, une imposition physique considérable qui dépossède de toutes les forces physiques masculines. Mais on peut se demander dans quelle mesure cette réquisite de présence féminine ne résume pas aussi quelque chose de la condition féminine à moindres égards, qui serait ici hyper ritualisé ou cristallisé de manière particulièrement forte dans cet univers social. Du coup, je m'aperçois que j'ai sauté. Oui, non, c'est ça. Donc, cette figure d'aliénation, qui est une figure où elle doit résoudre le désir masculin ici de présence, elle s'inscrit très vite, très profondément dans les chairs, puisque c'est le phénomène de la prise de poids qui commence pratiquement avec le mariage ou le premier enfant. Et dans cette prise de poids, on peut voir aussi, je ne crois pas que vous l'interprétez complètement dans ces termes-là, comme une espèce de dénarcissisation radicale qui s'impose par un rapide calcul coût-bénéfice d'un régime réussi. Alors ça, vous le dites longuement, ça. Hein. C'est qu'on ne fait pas de régime quand le calcul coût-bénéfice est vraiment trop faible du côté des bénéfices, c'est très énorme du côté des coûts. C'est le fameux « à quoi bon » qui tient quand même au fait que un régime, l'idée que ce serait pas gratifiant de faire un régime quand la possibilité de sortie est si faible de fait, ou qu'elle est purement utilitaire. Bon, on le voit très bien dans l'ouvrage, les filles qui s'habillent sont des filles qui sortent, comme Eliane qui a pris plutôt des activités syndicales. Il y a là, c'est important, dans le régime, il y a un côté effectivement marché sexuel ou rapport à l'autre, à l'altérité sexuelle, mais il y a également, on le sait bien, les gens qui travaillent sur le régime alimentaire, un travail sur soi, un travail pour soi. Or là, ce qui se produit assez vite dans le rapport féminin au désir en général, alors j'entends bien, soyez clair, hein, je vais être clair, il ne s'agit pas de désir sexuel ici, hein. Il s'agit d'autre chose que le désir sexuel. Le désir sexuel n'est qu'une métonymie du désir dont je parle. Si. Donc, ce qui se passe dans le rapport, là, le désinvestissement du régime et de l'apparence physique, c'est que ce qui s'est désinvesti, c'est la partie du travail pour soi du régime. Car bientôt, au fond, dans l'allégeance au désir de l'autre, au désir de présence notamment, il n'y a bientôt plus dans soi. Plus de pour-soi individuel. Bon. Deuxième manifestation. Attendez, parce que j'ai un petit doute. Oui, j'avais un petit doute. Oui, alors, ça va être un grand désordre, mais ce n'est pas grave. Deuxième élément très important, c'est que donc, le rapport au désir de l'autre, mais également. Je le dirai peut-être plus tard, ça, on va monter en puissance, c'est mieux. Deuxième chose, le désir négatif inexprimable. Ces femmes disent qu'elles ont affaire à des gueulards, le terme est dans le texte, je crois, il me semble. J'ai épousé un gueulard, oui, c'est ça. Elles ont affaire à des violents, il y a des hématomes fréquents. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement cette violence physique perpétuée dans cet univers-là, c'est les raisons des coups. Alors, en résumant assez vite, alors les hématomes fusent, enfin ça apparaît, un, quand elles ne satisfont pas son désir à lui, C'est le café du matin. Son désir de, ici, c'est un désir de présence. Hein. Quand elle ne valorise pas son désir à lui, c'est par exemple lorsque l'un d'entre eux est en désaccord, enfin, a une opinion sur l'éducation des filles, et elle n'est pas d'accord avec ce désir paternel, là, ça tourne mal. Ça apparaît aussi quand elles ont satisfait un désir à elles. Alors évidemment, quand Claudine sera adultère. Mais ça tombe aussi quand elles ont obligé, du moins c'est le discours qui est tenu, un homme à aller chercher son désir ailleurs. Marc adultère bat sa femme. Hein, parce qu'au fond, il explique que c'est de sa faute à elle s'il est adultère. Bon. Donc on voit bien un double régime, à la fois des revendications, des refus masculins qui ont droit à s'exprimer sans retenue, avec un passage à l'acte, et inversement, cette petite phrase qui m'a paru très intéressante, « Arrête Eliane, arrête Eliane, arrête », c'est-à-dire l'intervention masculine, en force, mais pas toujours en force, quand le désir de l'autre s'exprime de manière trop insistante. Et alors, la limite doit lui être imposée, y compris éventuellement par la force. Alors, troisième point, oui, je vous disais que l'interdit du désir sexuel n'est qu'un élément de cet interdit du désir, il n'en est qu'une métonymie. Alors, plusieurs éléments importants là. Si tous les jeunes ramenaient leur paye à la maison, quand ils travaillent, les filles ramènent ces payes, mais ne se voient pas rétrocéder d'argent. Cette petite différence est essentielle. Elles ont d'ailleurs énormément de ressentiments à cet égard. Alors pourquoi elles ne se voient pas rétrocéder d'argent? Parce qu'elles ne seront pas autorisées à sortir pour le dépenser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet interdit de sortir fait aux jeunes filles a pour argumentaire, évidemment, le risque de la grossesse. Mais on s'aperçoit, quand on lit Olivier Schwartz, que cet interdit est un interdit officiel qui ne tient pas fortement. Pourquoi ? Parce que cet interdit de sortir va engendrer des conduites de transgression, c'est-à-dire des sorties par la fenêtre, etc. Et ces conduites de transgression vont entraîner, pour des tas de raisons, évidemment, le fait de devenir enceinte. Première chose. Deuxième chose, le refus opiniâtre des mères d'accorder la pilule à leur fille va évidemment engendrer les mêmes choses. C'est-à-dire qu'elles ont plus de risques de devenir enceinte. C'est donc bien l'argumentaire autour de la pilule qui est le plus loquace pour nous ici. À deux reprises, il est dit qu'avec la pilule, les filles iront courir partout. Bon. Donc c'est bien le désir féminin, c'est la liberté là, et non pas la grossesse qui est le risque, qui constitue le danger. Et ce qu'il prouve évidemment, c'est que ce désir-là, je vous dis bien, il est métonymique du reste, parce qu'il est pris dans un ensemble d'interdits de désir. Bon, celui de disposer si peu que ce soit de sa paye, celui de s'habiller, celui de s'acheter des choses, des jolies choses, celui d'avoir du temps à soi pour ces jeunes filles qui vont aider à la maison quand elles ont fini de travailler, etc. Et ce qui est important ici, c'est que c'est les mères qui gèrent cet interdit du désir sexuel comme métonymie de l'interdit du désir en général. Et on voit très bien dans ce rapport interindividuel entre les mères et les filles que c'est l'austérité des mères qui a été construite par le rapport de couple pendant des années qui s'impose de manière draconienne aux filles. C'est l'atrophie de leur propre désir en général qu'elles imposent à leurs filles. Alors, c'est peut-être là que je vais insérer ce que j'avais oublié tout à l'heure. Oui. Alors, quatrième élément, qui est peut-être le plus intéressant, je trouve. Quand je vous disais que j'avais choisi comme titre « Leurs désirs font désordre », c'était à la fois pour dire les désirs masculins et infantins. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'elles sont à la... J'ai parlé beaucoup du désir masculin, mais elles sont aux ordres aussi du désir enfantin. Les enfants doivent être nourris, habillés, il faut répondre à leurs demandes, etc. Alors ça m'a paru très important parce que ça permet de reprendre et de retravailler une définition de la domination sur laquelle moi je reviens finalement aujourd'hui, que je trouve très claire, très 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 discriminante pour définir des situations de domination. C'est tout simplement la définition que donne Max Weber de la domination, à savoir que on repère une situation de domination par le fait que des ordres ont toute chance de se voir obéis dans une situation et de manière répétée. Ça a l'air un peu bébête, mais en fait, quand vous testez cette définition-là, vous arrivez très bien à discriminer des situations qui sont des situations, par exemple, de dépendance et des situations de domination. Bon. Donc, si je reviens à cette définition-là, ce qui est intéressant ici, dans ce rapport au désir enfantin ou masculin qui fabrique l'aliénation féminine à son propre désir, c'est que ici, ce ne sont pas les ordres qui font la domination. C'est que les désirs masculins, on va dire, ou enfantins, deviennent si puissants que ce sont des ordres implicites. On n'est plus dans l'ordre explicite. Ça permet de reprendre avec d'autres manières cette définition de la domination. Et une définition de l'aliénation beaucoup plus intéressante, puisque là, on a vraiment une disparition de l'explicitation de l'ordre sous une forme un peu particulière qui est la puissance légitime ou la puissance des désirs légitimes, si vous voulez. Bon. Alors, avec le titre que j'ai donné, c'est-à-dire « Leurs désirs font des ordres », il y avait aussi l'idée que leurs désirs, à elles, cette fois-ci, font vraiment des ordres. Et ça, je trouve que c'est l'élément le plus intéressant de l'ouvrage, de ce point de vue-là. Les désirs féminins, quand d'aventure ils s'expriment, font vraiment des ordres dans ce régime de domination-là, dans l'ordre habituel des choses. Ils entraînent une rupture très importante. Alors, pour vous donner une idée de la rupture, des ruptures qu'ils entraînent dans cette situation sociale, ils précipitent, si je résume bien, des mariages, des naissances, hein, parce qu'elles sortent pour... Mais c'est pas pour faire les bébés qu'elles sortent, hein, mais ça produit des bébés. Ça précipite des adultères, et ça précipite des divorces et des séparations. Alors, ça vous paraît bizarre que je le dise en disant que c'est leur désir à elles. Vous allez dire, mais c'est les désirs conjugués masculins et féminins qui engendrent tout ça. Ben, vous allez voir que pas du tout. Et ça, c'est la dernière partie de l'ouvrage. La précipitation dans le mariage, qui a étonné Olivier Schwartz, hein, il le souligne, c'est clairement une précipitation dans le sexuel enfin autorisée. Mais elles le disent, les jeunes filles le disent, au-delà de la précipitation vers le désir sexuel, c'est la volonté paradoxale de sortir. C'est-à-dire, en fait, elles vont rentrer dans un nouvel ordre familial, mais c'est la volonté de sortir de la maison parentale où elles disent ne plus vouloir remettre les pieds. Et moi, je l'interprète évidemment comme maison parentale, comme lieu privilégié de contrôle de ces désirs-là, des régulations des désirs en général, mais ces désirs-là en particulier, d'elles, opposées par les jeunes filles au lieu de l'usine, souvent identifiées au lieu d'une liberté relative, des rires, des jeux entre collègues et de la liberté des copinages. Il y a un objet qui me paraît très important dans cette interprétation, c'est la photo de mariage, qui est toujours suspendue dans ce couple, dans cet univers, et qui, pour moi, pourrait être lue comme l'image suspendue d'un temps de désir où elles ont cru s'approcher de leur liberté, également du désir sexuel, elles ont cru pouvoir se réapproprier du désir et aussi leur destin personnel. Et c'est la photo de mariage, comme elle le dit, j'ai commencé à grossir après. C'est le moment où elles vont, après ce moment suspendu, commencer à perdre leur forme. Le mot me paraît important dans son ambiguïté. C'est une forme physique, mais c'est aussi une forme mentale, enfin psychique. Le nouveau régime de négation du désir dominé va s'enclencher. Elle refuse pendant ce temps-là, le temps suspendu où l'image du mariage est encore très importante et positive, c'est le moment où elles vont refuser de voir de manière très importante de voir leur mère, celle qui les a tant empêchées. Bon. Et ensuite, elles vont s'abandonner aux petits, ce que j'appellerais moi les petits désirs compensatoires, et à leur mère à nouveau. C'est-à-dire elles vont commencer à manger et les mères vont réapparaître dans la domus. Olivier Schwartz se demande prudemment si elles ne se sont pas fait piéger, c'est le terme que vous avez employé, et je dois dire que oui, elles se font terriblement piéger, d'autant que le petit désir est coûteux. « Salut la grosse », dit un mari en partant travailler le matin, après qu'il ait cassé la figure à un automobiliste qui avait taxé sa mère, sa propre mère, de grosse pute. Et alors, je ne sais plus si c'est le même. Oui, je pense que c'est le même. Marc dira, pour expliquer son propre adultère, c'est parce que tu étais trop grosse. Donc, les petits désirs compensatoires sont terriblement coûteux. Ils ne sont pas des compensations qui permettent de soulever un morceau de la domination. Alors, pour finir, où est-ce que j'en ai ? Oui, pour vous montrer effectivement que le coût du désir est beaucoup plus élevé pour, c'est le cinquième point en fait, est beaucoup plus élevé pour les dominés que pour les dominants dans l'optique de la domination masculine ici, c'est que la femme adultère, Olivier Schwartz dans la fin de son livre montre qu'avec la montée du niveau de vie, il y a un élargissement des possibilités de désir pour les deux protagonistes. Bon. Et on le voit très bien dans la fin où Marc et, Claudine et Jean-Jacques, le couple Claudine-Jean-Jacques confronté au couple Marc-Eliane va s'inverser. Hein. Bon, il va y avoir un adultère. Mais quand vous regardez bien l'issue de l'adultère, la femme adultère va payer terriblement cher et beaucoup plus cher que l'homme adultère. Alors, Claudine va effectivement sera férocement battue pour son adultère, ce qu'elle accepte assez bien, ce qu'on voit dans le texte, elle l'accepte relativement bien. Elle considère qu'après tout, c'est une sorte de restitution de quelque chose. Elle devra évidemment être quittée, c'est-à-dire que son adultère à elle provoque une rupture, donc elle perd son couple et sa vie d'avant. Elle laisse à Jean-Jacques le pavillon qu'elle avait tant désiré, qu'il avait réussi à le convaincre de venir aux îlots. Elle va, elle, en HLM, je me souviens plus très bien où, en tout cas, elle est beaucoup moins bien logée dorénavant. Et elle va payer pour l'éducation de ses deux enfants qu'elle a entièrement à charge, alors que Jean-Jacques ne paye quelque chose que, je cite, « quand il en a envie », c'est-à-dire quand il en a le désir. Par contre, alors la femme trompée, donc c'est Eliane, elle va accepter que son mari adultère rentre au bercail, donc lui récupère son pavillon. Elle va surtout prendre sur son corps le désir coupable de son mari. C'était parce que t'étais trop grosse, dit-il. Elle va prendre au pied de la lettre cette affirmation d'un désir masculin non satisfait. Et elle va réagir par une abstention totale de tout désir alimentaire. Jusqu'au risque vital. Elle va faire une anorexie pendant des mois. Alors, avec ce petit bémol dont je ne sais pas très bien quoi faire, c'est qu'elle va publiciser son refus de voir critiquer son propre mini-désir coupable, à savoir son obésité, le résultat de son envie de manger, sa boulimie. Elle va envoyer un entrefilé à un journal local disant que elle menace de poursuite qui la critiquerait de son poids. Alors évidemment, cette publicisation de cette boulimie, de ce mini-désir féminin compensatoire sera très mal vécu par Marc. Alors, je ne sais pas s'il l'a bas à cette occasion, mais enfin, il le considère comme un affront, parce que c'est elle qui a publicisé ce désir-là. On voit bien que même sous forme d'un déplacement, là on a typiquement quelque chose comme un déplacement, donc effectivement j'utilise parfois la psychanalyse, je vois, on a un déplacement, mais même cette publicisation déplacée de ce mini-désir déviant est un problème dans ce dispositif. Voilà, alors conclusion. Je les retrouve. Oui, alors deux choses pour conclure. Oui, j'ai repensé à la discussion qui a eu lieu il y a quelques mois à propos de la traduction, de la nouvelle traduction de l'ouvrage de Virginia Woolf qui s'appelle A Room of One's Own, si je ne me trompe pas, qui a été traduit d'abord par une chambre à soi, puis ensuite par un lieu à soi, ensuite par une pièce à soi, et maintenant par Mario Dariussec comme un lieu à soi. Ce qui est plus proche, une chambre à soi était extraordinairement ambiguë, c'est-à-dire du point de vue de là, la connotation sexuelle était beaucoup plus forte que le lent déplacement vers un lieu à soi, à savoir une subjectivité à soi, un espace de subjectivité à soi. Ce que mon exposé tente à montrer, c'est que la sortie de l'aliénation, c'est aussi un désir possible à soi, avouable, publicisable, tenable, etc. Deuxième élément de conclusion, c'est que, la famille est un lieu de régulation des désirs, tout désir déviant possible. J'irai même plus loin, moi, après avoir travaillé sur la domination rapprochée, enfin, les modes de rapprochement à la domination, c'est que le privé est une institution extraordinaire de régulation des désirs, avec, certes, des transactions principales. Dans un couple, en tout cas ces couples-là, la transaction principale, elle se fait entre des désirs socialement légitimes. En gros, le sexe pour les hommes, l'enfant pour les femmes. Hein. Bon, on connaît. Mais là, il y a une forme d'échange de désirs socialement légitimes. C'est quand même très régulé, déjà. Mais là où il y a un autre type de transaction, qui est sur les désirs qui ne sont pas forcément socialement légitimes, qui sont des désirs secondaires, annexes, divers, là, la transaction est très violemment inégalitaire. Voilà. Donc la domination peut se travailler à l'aune de la distribution des autorisations aux désirs secondaires, pas forcément sexuels, maternants, etc. Merci.
Merci beaucoup, Dominique. Alors, dans la mesure où l'intervention de Nicolas est sensiblement décalée par rapport à celle de Dominique, peut-être que, Olivier, tu veux peut-être réagir immédiatement et on organisera une discussion plus globale sur les deux présentations à l'issue de la présentation de Nicolas. Ça te convient ? Dans ce cas-là, il faut parler dans le micro.
D'accord, oui, j'ai toujours du mal avec le micro, mais voilà. Voilà. Avant de réagir à ce que vous venez de proposer, Dominique, je voudrais d'abord revenir un tout petit peu en arrière et remercier d'abord très 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 vivement Nicolas, Cédric, enfin les deux Nicolas et Cédric. Et c'est pas formel ou diplomatique de ma part. Je veux dire que quand Nicolas Duvaux et Cédric Lombard m'ont proposé cette journée il y a plusieurs mois, j'en ai été infiniment touché, très très touché, très très, comment dire, très sensible à la confiance et à l'honneur qui m'était fait. J'ai donc dit oui. Ensuite, Nicolas pourrait vous le raconter. J'ai eu une montée colossale de stress à l'idée de cette journée, stress qui n'a pas disparu d'ailleurs, ce qui fait que vous entendrez ma voix chevrotée parfois à certains moments, c'est l'émotion. Bon, mais voilà, je suis vraiment extrêmement touché par l'honneur qui m'est fait. Je voudrais aussi vous remercier tous d'être là. Je suis également très très sensible à votre présence. Et puis bien sûr. Remercier très très vivement Dominique Mémy pour cet exposé vraiment passionnant et puis le travail que manifestement vous avez bien voulu faire sur ce livre et je le redirai vraiment chaque fois pour tous ceux qui interviendront ensuite. Vraiment ça m'honore aussi beaucoup beaucoup. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'on c'est un peu moi qui ai demandé à Nicolas, et Nicolas a bien voulu le dire, que de convenir qu'effectivement, je ne réagirai pas forcément toujours à toutes les interventions qui seront faites, uniquement parce que je n'ai pas de don, en fait, entre guillemets, pour la réaction spontanée comme ça, à des interventions, surtout comme elles sont aussi, quand elles sont aussi fortes et construites que celles que vient de proposer Dominique Mémy. Donc, voilà, il se peut que je sèche, tout simplement. Et dans ces cas-là, je ne réagirai pas. Donc, ne le prenez pas comme une... une bouderie. Alors du coup, on s'est demandé, est-ce que je me mettais là ou est-ce que je me mettais ici? Bon, mais j'ai préféré me mettre là parce que se mettre là, c'était discret, mais d'une discrétion tellement ostentatoire que tout le monde... Bon, voilà. Donc je voudrais vraiment vous remercier, Dominique, pour votre intervention qui suscite chez moi beaucoup de choses. Peut-être... Je fais un tout petit détour, mais pour mieux revenir à c'est tellement foisonnant qu'il y a, je vais prendre par un fil, hein, voilà. pour revenir, un tout petit détour peut-être, pour revenir à ce qui est l'un des axes centraux pour moi de votre exposé, c'est-à-dire cette aliénation du désir féminin, effectivement, dans la classe ouvrière. Et puis je reviendrai en fait sur la formule par laquelle vous avez proposé de titrer votre intervention, c'est-à-dire « leurs désirs font désordre », parce que il y a un jeu de mots, il me semble, dans votre formulation, qui au fond peut-être dit quelque chose d'essentiel sur un certain type de place des femmes dans la famille, dans la classe ouvrière. Il me semble que je me suis trouvé en fait quand j'ai fait ce travail dans une situation s'agissant de la question des femmes et de la place des femmes dans les familles ouvrières. Alors, j'ouvre ici une toute petite parenthèse. J'emploierai très très souvent le terme traditionnel. J'espère qu'il ne vous gênera pas. Si je l'emploie, si je parle d'une place traditionnelle des femmes dans la famille ouvrière ou dans les familles ouvrières, ce n'est pas du tout ici au sens normatif du terme, au sens où j'opposerais du traditionnel et du moderne. Je prendrais traditionnel en un sens strictement descriptif, c'est-à-dire qu'il y a, un certain type de place des femmes dans les familles ouvrières, une place qui présente des caractéristiques absolument récurrentes dans les travaux d'historiens et de sociologues sur cette question pour le 19e et le 20e siècle. Voilà, donc c'est en ce sens que je prendrai traditionnel. Alors, il me semble que la place traditionnelle donc, des femmes dans les familles ouvrières a toujours, au fond, suscité chez les historiens et les sociologues, enfin toujours j'en sais rien, mais chez beaucoup de ceux que j'ai lus, beaucoup d'hésitation et de perplexité, parce que c'est une place qui est extraordinairement ambivalente. Et je me suis trouvé face à cette situation. Elle est extraordinairement ambivalente, c'est-à-dire qu'elle concentre tout un ensemble de caractéristiques de sens contraire. Et la formule par laquelle vous avez proposé de titrer votre exposé, « Leurs désirs font désordre », est magnifique de ce point de vue, parce qu'en fait, leurs désirs, à certains égards, sont désordres, et à d'autres égards, font désordre. Et peut-être que toute l'ambivalence de leur place apparaît dans la formule que vous avez proposée. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, mais c'est des choses qu'on sait tous. Bon, il y a une place des femmes dans les familles ouvrières, au moins jusque dans les années 60, 50-60, d'un côté, leur confère un pouvoir important, enfin, très important même, dans le fonctionnement de la famille, dans le gouvernement et la vie de la famille. C'est elle qui décide des repas, c'est elle qui encadre les enfants, c'est elle qui ont la main sur les enfants. Bon. Et ça, beaucoup d'hommes et de femmes avec qui j'ai parlé pour ce travail, pour cette enquête dans les années 80, leurs propos, leurs discours en étaient pleins de ce rôle de leur mère, à quel point elle les avait encadrés pour tout. Bon. Vous y faisiez référence, donc c'est elles qui ont la main sur les finances de la famille. Il y a cette norme en usage dans le monde ouvrier. En fait, toutes sortes de travaux montrent qu'elle était loin d'être complètement respectée. Il y avait des résistances masculines énormes, mais il y a cette norme en usage dans la famille qui est que l'homme, et non seulement l'homme, mais tous les enfants qui travaillent, qui sont dans le monde salarié, lui remettent leur paye et... c'est elle qui, à partir de là, centralise les ressources et c'est elle qui décide de l'usage qui en est fait. Bon. Donc, d'un côté, un pouvoir réellement très important et qui, me semble-t-il, j'espère ne pas dire de bêtises, et sans équivalent dans les classes plus élevées, notamment dans la bourgeoisie, il me semble. Bon, mais peut-être que je me trompe. Bon. Donc, un pouvoir vraiment très, très important. Et en même temps, c'est ça l'ambivalence. Enfin, il y a plusieurs aspects. D'une part, cette place, cette fonction qui est la leur, s'accompagne tout de suite, enfin comporte tout de suite une suggestion immédiate et considérable qui est que cette responsabilité qu'elles ont de nourrir, de vêtir, de faire tourner le foyer, la famille, d'encadrer les enfants, il faut qu'elles y parviennent avec des ressources qui sont extrêmement minces. Alors, dans l'univers ouvrier que j'avais sous les yeux, les salaires étaient vraiment bas, ce qui n'est pas toujours le cas, mais il faut qu'elles y parviennent avec des ressources vraiment très très faibles, des salaires qui sont bas. Jusque dans les années 50-60, il faut par ailleurs qu'elles parviennent à entretenir le foyer avec quasiment pas d'équipement domestique ou très peu, d'où un travail domestique qui est harassant pour elles. Bon, ça, Hogarth aussi l'a très très bien décrit. Donc il faut qu'elles parviennent, entre guillemets, à se débrouiller avec très très peu d'argent. Et dans la mesure où l'homme leur a remis leur paye, il considère ensuite que c'est à elle de voir et à elle de gérer. D'autre part, elles ont un pouvoir statutaire réellement très important, mais qui en même temps ne doit pas... Bon, on est dans un univers social où l'importance que les hommes accordent au respect de leur virilité, de leur autorité masculine est très important. Bon, donc elles ne doivent pas remettre en cause, en tout cas publiquement, ouvertement, officiellement, cette autorité masculine. Il y a tout un ordre des sexes, effectivement, qui est très, 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 très important dans le monde ouvrier, en tout cas, que j'ai eu sous les yeux, avec des privilèges très importants, par exemple, au moment de l'adolescence, de la jeunesse, pour les garçons par rapport aux filles, ils peuvent sortir, pas elles, bon, etc. Bon. Et puis voilà, et puis bon, ben, il faut qu'elles parviennent donc à cela, bon, c'est-à-dire il faut qu'elles parviennent d'une part à faire tourner la famille, et d'autre part, il ne faut pas qu'elles déstabilisent ouvertement l'autorité masculine. Et puis enfin, pour terminer, ce qui fait l'extraordinaire ambivalence, pour revenir à... Parce que constamment, j'ai été confronté à ça au cours de ce travail. Ce qui fait aussi l'ambivalence de cette place, c'est que c'est une autorité qui est l'effet d'une condition dominée, si paradoxale que ce soit. Elles ont un pouvoir statutaire extrêmement important dans la famille, mais c'est l'effet d'une condition sociale qui est très dominée, puisque pourquoi, par exemple, est-ce que c'est elles qui doivent centraliser toutes les ressources ? Pourquoi l'homme lui-même doit-il leur remettre sa paye ? Ce qu'encore une fois, il est très loin de faire entièrement le plus souvent. On a un tas de textes là-dessus. Bon. Mais pourquoi est-ce que c'est elles qui doivent centraliser toutes les ressources, parce que les salaires sont tellement bas, notamment dans la région minière, que si le mari et les enfants en âge de travailler ne leur remettent pas toutes les ressources, elles ne peuvent pas s'en sortir. Bon. Et donc, elle vient de là, la norme de la remise de la paye. Donc il faut qu'elles centralisent tout. Bon. Et elles le revendiquent très, très ouvertement. Bon. Et donc c'est parce que les salaires sont bas et que les finances sont toujours justes qu'il faut qu'elles centralisent tout, sans quoi elles ne pourront pas y arriver. Donc elles ont un pouvoir qui est lié à cette condition dominée. Donc moi je me suis trouvé face à cela, et je crois qu'en fait, donc au fond, la situation face à laquelle j'ai été, et qui je crois a été celle d'une très grande partie du monde ouvrier, parce qu'on le trouve... Je veux dire, c'est visible chez Hogarth, c'est visible chez Jean Bardelove, c'est visible vraiment dans tas de textes que j'ai pu lire là-dessus. C'est que, effectivement, j'ai envie de reprendre le titre de votre formule. À certains égards, leurs désirs sont des ordres, beaucoup plus fortement que, sans doute, pour les femmes de la bourgeoisie. Elles ont la capacité elles ont un pouvoir statutaire qui leur permet de revendiquer, d'exiger des choses. Bon. Denis Poulot, dans Le Sublime, dans mon souvenir, hein, je ne suis plus sûr, mais je crois, raconte ça quelque part, hein, qu'un ouvrier qualifié, un ouvrier professionnel lui raconte comment ça se passe chez lui quand il revient chez lui, et s'il ne remet pas toute sa paye, sa femme lui dit « Joseph, tu ne m'as pas tout remis, je le sais, bon, y en a encore. Bon. » Donc, ils ont un pouvoir. Bon. Donc, leurs désirs sont des ordres, mais en même temps, leurs désirs potentiellement font des ordres. Parce qu'ils sont des ordres, mais à la condition qu'elles se plient en permanence dans un système de contraintes qui est extrêmement fort. Et c'est ça qui m'a frappé, c'est vrai. Un système de contraintes qui est très fort, parce que d'une part, il faut qu'elles se plient à l'ordre des sexes, dans lequel, quel que soit leur pouvoir à elles, en dernière analyse, les prérogatives masculines doivent être respectées. L'autorité, la prééminence et les prérogatives de l'homme, d'une part, et il faut d'autre part qu'elles se plient en permanence à leur fonction première, qui est d'être les gardiennes omniresponsables du foyer, alors qu'elles ont très très peu de ressources pour y parvenir. Bon. Il faut qu'elles se plient à cela. Et la conséquence de cela, c'est que, d'une part, si elles ne s'y plient pas, si elles s'écartent de cela, elles risquent des rétorsions. Alors, c'est vrai que là, il y a risque de la violence masculine lorsque le repas n'est pas prêt quand l'homme rentre. Bon, ça, effectivement, j'ai eu beaucoup de récits de ce type. Bon. L'un de ceux qui m'a le plus frappé étant celui auquel vous avez fait allusion, ce Claudine, donc, qui à 5 heures du matin est traînée jusqu'en bas de l'escalier par son mari parce que le café n'était pas prêt au moment où il allait aller à la mine. Bon. Et d'autre part, peut-être de manière plus banale et plus ordinaire, la conséquence de cela, c'est que c'est le degré très, très élevé de renoncement à désirer quelque chose pour elles ou à vouloir quelque chose pour elles, bon, qui résulte de cela. Bon. Parce qu'elles peuvent, elles peuvent avoir des désirs, mais à condition que ce soit dans le cadre de cet ordre et de cette fonction. Et alors, effectivement, j'ai été très, très frappé par le degré très élevé qu'atteint le renoncement à faire des choses pour soi, à désirer des choses pour soi. Il prend au moins deux formes. Une première forme, c'est la difficulté d'accès au travail salarié, bon, lequel les précipite dans de nouvelles aliénations, bien sûr, mais lequel pourrait être pour elles aussi quand même une possibilité d'existence et d'affirmation. Et puis il y a ce dont vous avez si bien parlé, c'est-à-dire, ça m'a beaucoup frappé, le corps, la manière dont ça s'inscrit dans le corps et le renoncement. J'ai beaucoup de celles que j'ai connues, mais je ne sais pas si c'est ainsi aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de celles que j'ai connues à prendre soin de leur apparence physique, corporelle, non pas qu'il y ait je ne sais quelle obligation, enfin je ne parle pas de manière normative là, non pas qu'il y ait une obligation pour une femme de prendre soin de son apparence corporelle, mais je veux dire l'impossibilité pour elle de tenter de normaliser cette apparence, de la rendre conforme à des normes qui étaient déjà très très prévalente à l'époque où j'enquêtais dans les années 80, c'est-à-dire éviter le surpoids, éviter le parvenir à une certaine ligne, bon, c'était déjà très fort. Et effectivement, j'ai entendu à plusieurs reprises, bon, beaucoup des femmes que je connaissais très très jeunes, des 30 ans, avaient des poids très très importants et ça leur valait effectivement des rétorsions très fortes. Voilà, je n'irai pas plus loin là-dessus, mais cette aliénation du désir féminin, ça, je me reconnais complètement dans ce que vous avez si bien dit, et je trouve que le titre que vous avez proposé dit ça vraiment très très bien, très très bien. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup beaucoup.